Nous allons donner la parole et nous avions proposé carte blanche à André Jourdan. Voilà, qui connaît pas André dans le domaine de la pédagogie et de la didactique des sciences. Alors, comment ça va se passer? D'abord, vous avez vu, André a souhaité se mettre au même niveau. Les empêcheurs d'éduquer en rond, s'ils veulent rejoindre la salle, ils sont libres. Hein. En fait, je leur dis ce qu'ils m'ont demandé de leur dire. Moi aussi, je vais descendre finalement. Voilà comment ça va se passer. On a demandé, et on le remercie, d'avoir accepté ces conditions. On nous a demandé à André de faire, de prévoir 3 exposés de 10 minutes. Voilà. Et puis, au terme de chaque exposé de 10 minutes, il va vous poser une question. Et donc, de nouveau, une animation en groupe pour répondre à la question. Cependant, après avoir répondu à cette question et débattu avec André, vous-même serez à même de lui poser les questions suite à cet exposé. Et on renouvellera cette séquence 3 fois pour correspondre finalement aux 3 séquences d'intervention d'André. André, merci de nous avoir rejoints pour cette journée de l'IPSEM. À toi de jouer.
Bien pour et rebonjour. D'abord, oui, je vous félicite d'être là. Et je crois que vous pouvez vous féliciter entre vous, pratiquer l'éducation thérapeutique. Vous préfigurez ce que peut être les soins dans 50 ans, disons, 2050, 40 ans. Donc c'est une félicitation que je voulais vous adresser. Et n'hésitez pas à vous féliciter mutuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats remarquables qui sont apparus dans les différents domaines de ce lequel vous êtes. Et je vous passe au passage quelques informations que vous pouvez lire tranquillement. Et là, je vois que à la fois, je laisse la place aux images pour ceux que je souhaite. Et pour ceux qui aiment bien écouter, vous fermez les yeux, vous faites la sieste et vous vous laissez bercer par ma voix. Voilà. Donc, résultat remarquable avec des diminutions, une qualité de vie augmentée. Mais malheureusement, vous avez choisi un domaine complexe. Et il reste beaucoup d'incertitudes. Et donc, il y a urgence à réagir. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites sérieuses dans l'observance, des motivations, contre attitude, rechute. Et certains d'entre vous, pas ceux qui sont ici, bien sûr, mais ceux qui ne sont pas venus, se découragent. La plupart des auteurs proposent entre 30 et 60% de patients malades chroniques qui sont non observants. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, j'ai des propositions à vous faire pour aller observer. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait dans des situations, face à des situations thérapeutiques conceptuellement et techniquement difficiles, du moins complexes, quand il faut prendre des décisions avec une part d'incertitude et notamment faire des interventions éducatives d'urgence? Alors j'ai prévu 3 moments de présentation pour que vous ayez des questions. Le premier moment, c'est quel modèle pédagogique? Le deuxième moment, comment accompagner un changement de comportement? Et troisièmement, quels outils pour vous soignants pour approcher et comprendre la complexité et l'incertitude? Alors je démarre par le premier. Alors quel modèle pédagogique? Moi je pense qu'il y a des modèles pédagogiques qui sont souvent implicites, mais vous avez des modèles pédagogiques. Après, on pourra discuter si c'est des modèles ou de la théorie. Et vous avez un consensus qui est qu'aujourd'hui, le patient n'est plus un sujet de soin, il devient acteur de sa maladie. Ça, c'est OK. Et puis, vous enseignez, suivant le diabète, des tas de choses, ou suivant l'asthme, d'autres choses, éventuellement, des conduites à apprendre. Pour ceux qui ne veulent pas lire rapidement, je vous passerai les diapos après. Il suffira de demander. Bien. Donc, lors d'un enseignement d'éducation thérapeutique, une éducation thérapeutique, le soignant informe, communique, transmet, fait faire des activités, motive, avec des résultats incontestables, mais en même temps, des limites. Et je crois que si on veut avancer, je me permets de vous provoquer déjà, je pense qu'il y a certaines illusions à dépasser. L'illusion numéro 1, c'est le fait qu'on suppose possible de faire apprendre, et pour apprendre, d'enseigner. On oublie que le patient, il a certaines conceptions. On fait des beaux schémas, des beaux tableaux, des belles présentations, et on se trouve avec un public qui a d'autres conceptions sur le sujet. Il y a des décalages. Et parfois, ces décalages sont très importants, à commencer par la position des organes. Oui, il y a des prostates un peu hautes. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, là aussi, je propose de faire des petites recherches, des petites observations chez vous. Et parfois, c'est vraiment dramatique. Docteur, je ne dors plus, je suis foutu. Toutes mes analyses sont négatives. Eh oui. Alors, à travers ça, ce qui est en face, c'est le modèle ou la théorie de la transmission frontale. On fait passer un message en frontal, et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'idée que on peut être émetteur quand on est soignant, récepteur quand on est patient, et le message peut passer en direct. C'est le modèle que j'utilise avec vous actuellement. Donc, ça peut avoir du sens. On verra. Mais pour que ce modèle marche, il faut que 4 conditions soient présentes. Première condition, même cadre de référence, à commencer par les mêmes mots, et derrière les mêmes mots, les mêmes idées. Malheureusement, tout commence là. Vous avez ce modèle-là du corps. Personne ne réagit. Ou celui-ci, pour prendre des images que je trouve, là c'est en Allemagne, mais c'est, on peut trouver l'équivalent en France. Vous voyez que le cerveau est chez l'homme, il n'est pas chez la femme. Hein. Ah, c'est des images que j'ai récupérées dans des formations d'éducation thérapeutique. J'aimerais voir les vôtres. Bien. Et pendant que vous avez ces images-là et vous travaillez sur ces concepts-là à travers ce discours-là, vos patients peuvent avoir cette image-là du corps. Surtout s'ils lisent les livres à la mode, vous voyez, des corps sculptés, ils restent à l'apparence. Alors je ne dis pas si votre patient est un imprimeur, pour lui le corps c'est tout à fait autre chose. S'il est matheux, c'est encore autre chose, le corps des nombres. S'il est chimiste, il pense au corps pur. S'il est astronome, il pense au corps céleste. Et puis bien sûr, il a chute des corps. Tout ça pour vous dire qu'en permanence, il y a un hiatus entre le discours qui est présenté et ce que peut comprendre le patient, notamment quand les diététiciennes parlent de glucose, glucides, hydrate de carbone. Vu leur culture, c'est tout à fait évident, c'est des mots qui leur parlent. Mais le glucose, pour un patient, ben, c'est pas sucré, donc c'est pas un sucre. Hein. Ou éventuellement, le diabétologue parle du fond de l'œil en pensant à la rétine, et pour le patient, le fond de l'œil, c'est la pupille. Ben oui, c'est pas quelque chose derrière. Ou quand on fait de la formation pour des jeunes enfants, par exemple, on parle de microbes avec ces idées-là dans la tête qu'on a appris à l'université, et puis son public, il imagine les microbes. Et en permanence, il y a des décalages qui font que le message ne peut pas passer en frontal. Mais ça, c'est que la première condition. La deuxième condition, passer en frontal, il faut même type de questionnement. Pourquoi ? Parce que le savoir est une réponse à une question. Alors, est-ce que vous prenez le temps que le patient se questionne ? Bien. Vous pouvez voter. Hein ? Bien. Troisième condition, il faut raisonner de la même façon, les mêmes inférences. Et là aussi, je vous montrerai des exemples par la suite si vous êtes intéressé. Et quatrième condition, il faut produire du sens de la même façon. Là, vous voyez très bien qu'entre hommes et femmes, on ne se comprend pas parce qu'on ne produit pas du sens de la même façon. Donc c'est pareil entre patients et soignants. Puisqu'on dit que les femmes viennent d'eux. Et les hommes de Mars, on dit que les femmes savent pas lire les cartes routières et les hommes ne savent pas écouter. Pour prendre des titres de livres américains. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le modèle frontal de la présentation du discours qu'on peut faire ? Le soignant, il cause, et le patient, il rigole. Alors, comme ça ne marche pas, certains, en deuxième modèle, dans la tête, ils pensent qu'il faut conditionner. Et là, ça renvoie cette fois-ci à notre modèle, qui est celui du conditionnement de Pavlov, repris par les behavioristes, etc. C'est l'idée que cette fois-ci, on ne va pas transmettre un message, on va créer une situation qui va créer un comportement. S'il est bon, on l'enrichit, s'il est mauvais, on y remédie. Alors voilà par exemple un exemple en addiction. Alors on verra si c'est un bon modèle ou pas. Alors en tout cas, c'est déjà un bon modèle pour faire passer des gestes techniques, oui, pour apprendre des savoir-faire éventuellement. C'est limité pour des apprentissages complexes. Si vous voulez apprendre à votre enfant à ne plus mettre le doigt dans la prise, Il suffit de baisser un peu l'intensité, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'incertitude et la complexité. Mais par contre, c'est un modèle qu'on peut utiliser. Un autre exemple, prenez votre poignet, frottez-le, et regardez Rémi. Et vous dites, cet homme est sympathique. Frottez bien le poignet en même temps. On verra si ça marche ou pas. La difficulté, si vous voulez, c'est celle-ci, c'est qu'on peut amener l'âne à la rivière, on ne peut pas boire à sa place. Alors là, évidemment, aujourd'hui, on a trouvé la panacée, la bonne solution, le bon modèle. La solution est dans l'action. Hein, vous n'osez plus faire des cours frontaux, vous n'osez plus conditionner, vous allez faire des activités, des projets. Alors cette fois-ci, il y a un autre modèle qui est derrière, c'est l'idée qu'on ne transmet pas, on ne conditionne pas. C'est le patient qui va élaborer, construire son propre savoir à partir de qui il est, etc., etc. Soit par l'expression, soit par l'action, soit la mise en relation, éventuellement par le conflit cognitif. Alors c'est un modèle qui est intéressant pour un début de motivation, c'est un modèle qui est intéressant pour assimiler ce qui est attendu. C'est un modèle aussi qui ne permet pas l'accès à un savoir complexe. C'est un modèle qui ne permet pas forcément un changement de comportement. Alors je suis désolé de vous décevoir pour ceux qui sont mis là-dedans, mais c'est ainsi. Alors je suis pas sûr de vous convaincre en frontal. Alors je vous propose un petit exercice. Qu'est-ce que vous voyez? Un chien, oui, un chien. Voilà. Et des gens qui sont à N plus bac voient un chien, alors qu'ils savent très bien que pourtant l'image est renversée, et ils auraient dû voir un chat. Et très souvent, on ne peut pas construire parce qu'il faut d'abord déconstruire. Là, déconstruire une façon de dire le monde. Tout le monde voit le chat maintenant? Oui. Alors ça, c'est simple. Si je prends un exemple extérieur à votre domaine, géographie, on a tout ce modèle-là dans la tête. Et on se voit avec ce modèle-là au centre du monde, évidemment. Je ne vous sens pas à l'aise avec ce modèle-là. Et pourtant, ce modèle est beaucoup plus réaliste aujourd'hui, qui met l'accent sur l'importance du Pacifique, qui a été gommé par le modèle précédent. Et là, vous voyez très bien, je ne sais pas si vous retrouvez où vous êtes. Là. Vous trouvez votre adresse ici? En bas à droite, là-bas? Au bout du monde? Alors ces modèles-là, très souvent, nous amènent à faire des choix. Et si je vous parle du pays où je travaille actuellement, la Suisse, avec ce modèle, ils se croyaient au centre du monde et ils pensaient que si les Américains et les Soviétiques se battraient, les missiles passeraient sur leur tête. Et ils ont passé pendant leur vie, pendant 30 ans, à construire des abris anti-atomiques. Ils auraient eu ce modèle-là. Ils seraient aperçus que c'est tout à fait autre chose. Vous voyez. Mais il faut déconstruire, c'est le premier modèle. Ils auraient eu ce modèle-là aussi, ils auraient aperçu que c'est beaucoup plus facile de passer par le pôle. Alors, vous voyez, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est pas tellement la construction, c'est pas tellement l'action, c'est la déconstruction de ce qu'on est déjà, de ce qu'on possède déjà. Et on a tous, par rapport à la maladie, par rapport au traitement, déjà des conceptions, mais pas que seulement des conceptions, qui nous empêchent de construire. Alors, je suis pas sûr de vous convaincre toujours en frontal. Alors, je propose un deuxième exercice. Êtes-vous prêt? Installez-vous bien sur les sièges, je vous sens crispé encore. Respirez bien par le ventre. Qu'est-ce que vous voyez? Le chat. Ceux qui voient la dame, malheureusement, elle n'existe pas, comme dirait Magritte. Ceci n'est pas une dame. Regardez son bras, son nouvel espace entre l'étagère et le chat, son dos, le rideau, et sa belle tête. Sa belle tête, un pot de fleurs. Voilà. Et donc, vous voyez le gros problème qu'on a à déconstruire. Alors, je comprends que les messieurs veulent voir une dame, mais les dames. Alors, en permanence, on peut arriver à ne pas lire le monde si on ne déconstruit pas. Je vous présente un dernier exercice encore. Qui ne sait pas lire ici? On va voir. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Je, il y a écrit je. J-E-U. Non, il ne faut pas tourner la tête. Ne tournez pas la tête. C'est J-E-U en direct. Alors essayons de comprendre pourquoi, pendant que les derniers essaient de voir « je », généralement on écrit par opposition « noir sur blanc, noir sur blanc, blanc sur noir ». Et là, la petite astuce que j'ai mise, c'est d'avoir fait les lettres comme le font. Et automatiquement, vous êtes tombé dans le piège de lire le blanc. Ouais. Bon, là, c'est des choses simples à déconstruire. Malheureusement, quand vous êtes avec des patients, leurs conceptions qui sont sur la maladie, sur le traitement, sur la santé, sont pas évidentes à déconstruire et on a du mal à déconstruire. Ce qui fait qu'ils arrivent vers leur propre conception avec les activités d'ETP en colle par-dessus un message. Et dès qu'on a le dos tourné, ça se décolle. Mais là, très souvent, on a dit, ben, il est nul, il est fainéant, il n'a pas envie d'apprendre, ou il est perturbé. Et là, on passe à l'illusion 4. Si la personne n'apprend toujours pas, on la voit chez le psycho. Le psychiatre. On botte en touche vers le psychopsychiatre. Et là, vous avez toute une série de thérapies dont je pourrais parler des avantages et inconvénients, si vous voulez, en fonction des questions. Mais le gros problème en plus, c'est très souvent, attention aux effets collatéraux. Ces thérapies, très souvent, sont source d'enfermement, source de culpabilisation et d'inhibition. Et la plupart des patients, quand vous envoyez chez les psys ou les psychas ou les psys quelque chose, ils deviennent très souvent anti-psy. Ils sont fatigués d'être psychologiquement disséqués, analysés, diagnostiqués. Et là, ça me permet de dire que si vous voulez apprendre, ce n'est pas que du cognitif et du psychologique. Et là, il y a une piste sur laquelle on travaille à Genève actuellement, c'est de travailler sur les 5 dimensions du patient, c'est-à-dire, bien sûr, le cognitif et l'affectif, mais penser que très souvent, les obstacles principaux sont des domaines qu'on ne travaille pas habituellement, qui est l'infra et le métacognitif. Alors, je vais expliquer ce que c'est que ces gros mots que j'utilise, pour ceux qui ne connaissent pas, et parfois dans le perceptif aussi. Infracognitif, par exemple, c'est des raisonnements de base. C'est des raisonnements intimes, c'est des façons de penser, des évidences qu'on n'interroge jamais. Je mange naturel, ils n'ont pas de problème. Bon, naturel, c'est pas forcément toujours sain. Je mange bio, donc je peux en manger autant que je veux. La résonance de ces mots fait qu'on oublie que c'est pas évident, c'est pas immédiat. Le médicament est un produit chimique. Et très souvent, là aussi, on peut travailler sur tout ce qu'il y a dans le soubassement des médicaments. C'est à la fois le sauveur, à condition que ça agisse tout de suite, mais c'est souvent le poison aussi. Donc là, il faudrait travailler aussi sur les types de médicaments aussi. La piqûre est plus efficace que le comprimé, qui est plus efficace que la pommade. Tout ça, c'est implicite. C'est ça que j'appelle l'infracognitif. Et c'est souvent là que ça bloque. On en verra d'autres exemples. Parfois, c'est le métacognitif qui bloque, c'est-à-dire l'idée qu'on se fait des choses, et notamment comment on conçoit la médecine, comment on conçoit les milieux de soins, comment on conçoit les... Et là, on s'aperçoit que c'est des cultures différentes. Le patient, lui, cherche le bien-être et la qualité de vie, alors que vous, très souvent, vous prenez vos décisions en fonction de la mortalité, de la morbidité. Et là, on est dans le hiatus toujours. Alors là, on revient au modèle pédagogique. On s'aperçoit que le patient n'entend et ne voit que ce qui est attendu. Il comprend à travers ce qu'il est, il comprend à travers ce qu'il connaît déjà. C'est-à-dire, il apprend à travers ses conceptions qui s'est mobilisées. Mais malheureusement, ces conceptions qui s'est mobilisées, qu'elles soient au niveau cognitif, métacognitif, infracognitif, sont des obstacles. Et ces obstacles, parfois, le dépassent. Ils sont inhérents au milieu dans lequel il vit. Alors vous voyez, là, il faudra aller vers un quatrième modèle, si vous voulez, où le patient n'est plus acteur, mais le patient est auteur de son propre savoir, où l'importance, c'est à la fois de construire pour déconstruire, ou déconstruire pour construire, où les deux interviennent plutôt en interaction pour pouvoir élaborer le savoir. Mais pour cela, évidemment, on tombe dans un monde des paradoxes, et même des conflits, où le patient apprend seul. Vous ne pouvez pas apprendre à sa place, mais en même temps, il ne peut pas apprendre tout seul, heureusement pour votre métier, pour vos métiers. Où le patient apprend à partir de ses propres conceptions pour aller contre ses conceptions. Autre paradoxe. Il apprend à partir de ses conceptions parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est à partir de ce qu'il y a dans sa tête qu'il peut interpréter vos propos ou la situation. Et très souvent, votre message va à l'encontre de ce qu'il pense. Donc là, on passe à notre modèle qui s'appelle l'apprendre par l'austérie. Je n'insisterai pas là-dessus, sauf s'il y a des questions. Par contre, j'insisterai sur une cinquième illusion, même si je suis le papa de ce modèle-là, pour dire qu'il n'y a pas de recette, malheureusement, dans votre domaine. C'est l'illusion, très souvent, qu'on a en éducation thérapeutique, de chercher la bonne solution, la recette. Et je ne voudrais pas que certains d'entre vous soient venus ici pour rechercher la recette. Donc, d'entrée, je voudrais plutôt insister sur le fait qu'il faut penser quadripédagogie comme on passe trithérapie. C'est-à-dire que quand le patient est prêt à vous écouter, qu'il a tous les éléments pour écouter, c'est pas la peine de faire de l'austérie, faites de la transmission. Si c'est pour apprendre gestes techniques, faites du conditionnement. À d'autres moments, notamment quand on travaille sur complexité et incertitude, là, il faut faire de l'austérie. Mais j'aimerais ajouter, avant de vous laisser la parole, le fait de dire qu'il n'y a pas de recette, ça ne veut pas dire qu'on est foutu, qu'on ne peut rien faire. Le fait qu'il n'y a pas de modèle, ça veut dire qu'il faut avoir des outils. Des outils pour être à l'écoute de son patient, repérer ses conceptions sur son corps, repérer ici, en plus, des conceptions de patients qui savent, qui sont observants. Mais c'est pas parce qu'ils sont observants du traitement qu'ils ont bien compris comment fonctionne, dans le cas du diabète ici, la physiologie de propre corps. Donc, outils pour comprendre les aspects cognitifs et voir où sont les obstacles. Par exemple, au niveau de l'énergie, c'est de la force, c'est avoir des muscles, c'est le PEPS. C'est le problème que parfois les patients confondent la concentration et la quantité. C'est bien sûr les infracognitifs. Très souvent, un patient pense qu'un organe, ça a une seule fonction, notamment ceux qui ont plus de 35 ans. Alors, je laisse trancher le maître.
Alors, donc, on laisse les groupes poser des questions à André.